Vous savez que c'est Marthe Robin qui nous invite à dans sa maison, ici. Pour la plupart d'entre vous, je crois que c'est la première fois que, pour le plus grand nombre d'entre vous, c'est la première fois que vous venez faire une retraite en foyer de charité. Des foyers qui ont été fondés, vous savez, par la petite Marthe, qui est représentée à la chapelle, vous avez pu le remarquer, sur cette icône qui se trouve sur la droite, dans un lit qui est petit comme quatre fois sa tête, et recouverte de blanc, sur un oreiller, et le lit est tout petit. Et c'est cette petite enfant, cette petite fille de Dieu, que nous, certains d'entre vous ont connue, je ne sais pas qui, mais il y en a quelques-uns qui ont pu la rencontrer, la voir. Ici, bien sûr, les membres des foyers, bien sûr, ont pu la voir. Et qui est probablement réputée être le plus grand prophète de tous les temps. Et Jésus lui a demandé de donner à sa fille, de donner son corps, et sa vie et son cœur pour que il y ait un monde de nouveau, une Pentecôte d'amour. Vous le savez. Si vous êtes ici, c'est parce que vous connaissez Marthe, parce que Marthe vous connaît. Et donc c'est un petit peu elle, l'Immaculée, l'Esprit Saint qui vous a amené ici. Donc c'est elle. Elle vous remercie d'être venue, parce que maintenant que son œuvre va commencer, il va falloir que nous puissions recevoir ce que l'Esprit Saint a mis dans son cœur pour que ça devienne rayonnant, que ça puisse être fécond. Ce qui s'est passé dans le siècle dans lequel elle a vécu, qui est le nôtre, est quelque chose de très déroutant, de très mystérieux, parce que nous avons assisté à un ensemble de soubresauts, je n'ai pas besoin de vous les décrire, qui fait que nous sommes véritablement dans un état d'insécurité, on sent une atmosphère sur l'orbe de la terre particulièrement difficile. On sent, on voit très nettement, si on est sociologue, si on est psychologue, si on est philosophe, si on est théologien aussi, on sent très bien et on voit très bien que l'humanité est en déroute, que la jeunesse est dans un état de très très grande difficulté, et que les responsables, les autorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sont dans un état d'expectative, d'attente. C'est très particulier à notre monde, et c'était la force, ça a été la grâce de Marthe Robin, d'avoir été prophète. Un prophète, c'est celui qui comprend son temps. Et par le baptême, nous sommes prophètes, prêtres et rois. Et donc, il faut que nous puissions trouver dans le cœur de ce que l'Esprit Saint a mis dans le cœur de Marthe Robin, il faut que nous puissions trouver un véritable amour pour ce qui se passe dans notre temps. Plutôt que ce soit une espèce de, d'aversion. Au lieu que le démon voudrait nous mettre dans le désespoir, dans le découragement, hein, dans, comme disaient les pères du désert, dans l'acédie, c'est-à-dire le dégoût, trouver enfin, grâce à Dieu, le secret qui nous permet d'aimer le monde dans lequel nous sommes. Le Christ a aimé le monde. Alors, évidemment, le monde n'est pas très aimable. Dieu seul est aimable. Et pourtant, le Christ a aimé le monde. Pourquoi est-ce qu'il a aimé le monde? Parce que le Christ a compris. Et nous, le Christ, c'est nous. De plus en plus, nous devons comprendre que le Christ sur la terre, c'est nous. Ça me paraît assez évident qu'on ne va pas demander à des gens qui sont très en phase avec le monde moderne d'aimer le monde. Le monde est caractérisé précisément par le manque d'amour. Et donc, ils n'aiment pas le monde qui est le leur. C'est un monde de péché. C'est un monde séparé de Dieu. Ils aiment être dans cet état, mais ils n'aiment pas cet état. Il n'y a que Dieu qui aime le monde. Il a aimé le monde et il a envoyé son Fils. Nous ne sommes pas dans le découragement ou dans le désespoir, ni d'ailleurs dans le laisser aller en disant bon, le pur attentisme, pas du tout. Nous sommes dans l'espérance. Un prophète est toujours dans l'espérance. Et c'est pour ça, je trouve ça très grand, très beau, très touchant et très nécessaire de rester une semaine, de donner une semaine à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint, pour qu'il puisse se servir de nous, qu'il puisse vraiment nous modeler, quoi. Puisse vraiment nous habiter de manière à ce que dans l'Église d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et dans le cœur de Dieu aujourd'hui, il y ait quelques-uns qui acceptent de rentrer dans la grâce du baptême. Et qui acceptent de rentrer dans la grâce du baptême, pas n'importe comment. C'est-à-dire selon la grâce que Dieu donne aujourd'hui. Pas la grâce que Dieu donne au XIXe siècle. Parce qu'il y a certains qui voudraient qu'on vive de la grâce du XVe siècle. Ou encore mieux, de la grâce du IIIe siècle. Alors, il y a quand même un gros mouvement, je suis très bien placé pour le savoir, un grand mouvement qui se faisait dans les années 70, pour retour, vous voyez, à l'église du IVe siècle. Bon, tout le monde, hop, oh, ermite. Tout merveilleux. C'était, hop, on quitte le monde. Et puis, non, l'église est une église d'espérance, c'est une église prophétique, c'est une église royale. C'est elle qui règne. C'est une église sacerdotale. Le bon Dieu, Jésus, veut se servir de nous. Il veut se servir de nous parce qu'il ne veut pas nous laisser sans espérance. Il nous a tout donné. Alors c'est pour ça que c'est très très important que nous nous retrouvions ensemble et que nous regardions précisément comment aujourd'hui on peut se laisser prendre par Dieu dans l'espérance. C'est très difficile. C'est la vertu, c'est-à-dire la qualité intérieure de nos actes humains, de nos actes religieux, de nos actes mystiques, qui est la plus difficile. C'est très délicat, l'espérance. Et ça ne se fait pas n'importe comment. C'est pour ça que c'est quelque chose de très... Il y a tout un travail à faire. Mais c'est pour ça que c'est très très important, effectivement, de faire cette retraite. Quand je suis à Diamarthe, je veux, c'était en 1947, je veux, c'est bien, ceux qui me connaissent connaissent mon amour des chiffres, n'est-ce pas? Ici, c'est le département 47. Vous savez, 47, donc, 4, c'est la croix, Dieu créateur. Dieu est 1 et 3. 3 et 1. Mais Dieu n'est pas replié sur lui-même. C'est nous, quand on ne vit pas de la béatitude, quand on ne vit pas de Dieu, on se replie sur nous-mêmes. On n'accepte pas d'être des créatures. Alors on se replie sur nous-mêmes. Alors on n'en respire plus. Tandis que Dieu, lui, respire. N'est-ce pas? Alors, il respire. Il ne se replie pas sur lui-même. Il crée. Alors, ça fait 4. On passe de 3 à 4. C'est beau, ça. On est tout petit, mais on compte pour 1. On est 0, hein? Comme dirait Catherine de Sienne. On est 0. On est 0. C'est pas compliqué. On compte pour 1. C'est fou. C'est étonnant, comme dit Catherine de Sienne, fais-toi, c'est le père qui dit ça à Catherine de Sienne dans ses dialogues. Retenez ça parce que c'est beau. Pendant cette retraite, fais-toi capacité. C'est-à-dire rien, quoi. Fais-toi capacité. Je te ferai torrent. Fais-toi capacité. En toi, je serai torrent. C'est beau, ça. C'est vrai? C'est thème d'une retraite. Une petite note sera de mettre dans son cœur ça. Fais-toi capacité, écoute, que ce soit des torrents. Des torrents. Les torrents de l'éternité, les torrents de l'amour de Dieu, les torrents de la lumière divine, les torrents de la rédemption, les torrents de la gloire de Dieu, les torrents de l'aspiration, les torrents de l'amour, les torrents de la miséricorde, c'est toi. Sans nous, le bon Dieu ne peut pas être torrent de miséricorde. On n'est rien du tout. Et en étant rien du tout, uniquement disponibilité à Dieu, pour que Dieu soit présent, Dieu enfin peut être là. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Donc, 4, c'est Dieu créateur. Dieu crée. Et comme il y a eu des petites histoires, quand il a créé une petite chute, même des grosses chutes, et on connaît bien ce que c'est que chute, alors c'est pour ça que c'est pas un problème pour nous. Et donc il est venu recréer tout. C'est ça la croix. Le Christ est venu tout recréer à partir de lui. C'est lui le créateur, et il faut qu'il reprenne la matière qui est devenue de la boue, de la glaise, qu'il y mette du rouge, la glaise rouge, Adam, c'est-à-dire son sang, et qu'il le recrée à partir de rien, c'est-à-dire à partir de sa mort. 4, c'est la croix. Et du coup, il sort de là 7. C'est ça 47, vous voyez. Il sort de là 7, comprenez. C'est que d'un seul coup, les trois personnes de la très sainte Trinité resplendissent dans la création. 4 plus 3. C'est la plénitude 7 pour Moïse, pour les rabbins, pour les mitrages rabbiniques, tout ça, c'est la plénitude. C'est la plénitude. Et Marthe Robin, c'est ça. Marthe, c'est de la croix toute pure, jaillit l'Esprit Saint en plénitude. L'homme rempli de l'Esprit Saint. Les sept dimensions de l'homme entièrement brûlées, illuminées par l'Esprit Saint, débordantes de l'unité du Père et du Fils. C'est la Pentecôte d'amour. C'est le prophète de la Pentecôte d'amour. Pendant 2000 ans, nous avons essayé de vivre avec Jésus des sacrements, de la foi, de l'espérance, de la charité, de la sainteté. Mais la Pentecôte d'amour, on ne sait pas encore ce que c'est. C'est une prophétie. Ce qui veut dire que l'espérance chrétienne garde toujours la même structure intérieure, mais change de mode avec l'histoire, ce qu'on lira dans l'Apocalypse. Parce qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre quelle est la sainteté de l'espérance chrétienne dans laquelle nous allons rentrer. C'est ce que je voudrais faire avec vous, moi. Je voudrais qu'on regarde ça. J'aimerais beaucoup qu'on fasse ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. On va accepter de rentrer dans la retraite d'une manière la plus simple qui soit. On va accepter de lâcher prise. On va laisser derrière nous tout ce que nous portons. On a plein de pauvreté. On arrive avec toutes nos pauvretés, toutes nos misères, avec toutes nos limites, avec tous nos problèmes, etc. Bon, je vous en passe. On est quand même lourd. Hein. On stagne. C'est vraiment la bête. C'est l'âne qui n'avance pas. Et pourtant, il avance. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas de désir, mais il n'avance pas. L'âne est têtu. Il y a quelque chose dans notre cœur qui n'avance pas. C'est terrible, ça. Pourquoi ? Parce que on a des tas de pauvretés. Nous avons des pauvretés de fait. On a honte. On est pris par la honte, on est pris par l'angoisse, on est pris par la culpabilité, on est pris par des phénomènes d'inhibition invraisemblables. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas confiance, et parce qu'on ne nous fait pas confiance, parce qu'on ne nous a pas fait confiance. Vous savez, quand quelqu'un ne vous fait pas confiance, vous savez ça dans l'éducation des enfants, vous ne faites pas confiance, et du coup ça produit des phénomènes d'inhibition. Or, la société dans laquelle nous vivons ne fait pas confiance à l'homme. Et c'est pour ça que nous engendrons une génération inhibée. Inhibée. Inhibée sur le point de vue humain, sur le point de vue de la vie contemplative, la recherche de la vérité. Sur le point de vue, si vous voulez, des valeurs qui font que l'homme est au-dessus de tout. Qui est unique, qui peut s'unir à Dieu, qu'il est capable d'extase, qu'il est capable de créateur d'éternité dans l'union avec Dieu. Oui. Ce qui fait la dignité de l'homme, ça. Inhibition. Pourquoi inhibition ? Parce que la société qui a l'autorité sur nous, qui joue le rôle de la mère, qui joue le rôle de l'autorité, n'a aucune confiance dans l'homme. Les papes, et erreur, de dire aux jeunes qu'il a confiance dans l'homme. même s'il est vieux. Vous savez que l'espérance est une chose très importante. Je n'ai pas besoin de vous faire une très longue introduction, parce que ce que je voudrais que ce soit surtout très... j'aurais beaucoup aimé que ce soit très... qu'on ne perde pas une seconde, quoi. Qu'on ne perde pas une seconde. Je voudrais ça, moi. Je voudrais que pendant une semaine, on carbure, quoi. Que ce soit vraiment pour nous une retraite à 100 km à l'heure, quoi. Qu'on aille vraiment à la lumière, à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Et c'est très important parce que l'espérance, on le verra, ça, l'espérance nous met dans la lumière. L'espérance nous met vraiment dans la lumière. L'angoisse, l'inhibition, ça c'est des phénomènes d'obscurité. On est dans les ténèbres. Les démons, ils veulent nous décourager avec ça. Dites, n'avance pas, il fait nuit. Surtout, va pas quand même évangéliser dans les rues. Enfin, tu vas te faire... quand le pape organise un voyage, n'est-ce pas? On dit, c'était ça, et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, il dit, mais dans les années 80, 82, etc. Je disais, ah, au Vatican, les évêques, je disais, mais n'y allez pas, ça va être une catastrophe. Enfin, à chaque fois, il y avait des milliers de personnes qui disaient, mon stress impère, n'allez surtout pas là, ça va être un four complet. Alors là, il disait toujours, à chaque fois, c'est une four complète, ce n'est pas le four complet. Ça, à chaque fois, il faut être non pas dans la potentialité, oui, se ramasser dans ses puissances en étant dans un état d'attente, il faut être en acte. Ça, c'est la philosophie du pape, ça. C'est un philosophe de l'acte. Être en acte, c'est-à-dire être en plénitude. Être en acte. Passer de la puissance, je peux, à l'acte, tout le temps. Être tout le temps en état de plénitude. Tout le temps à foncer. Tout le temps. Tout le temps en état maximum de ferveur. Tout le temps en acte. Dans ce qui va caractériser ce qui rate l'espérance de la sixième église, l'église de Philadelphie, sixième église, ce qui rate tombe dans la septième église, la Odyssée, ils deviennent tièdes. Alors on se vomit soi-même. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Tandis que l'église de Philadelphie, la sixième église, celle qui est, en fond, l'église, la nôtre, en fond, d'une église où il faut qu'on soit en état de ferveur et de pauvreté totale. L'église de Philadelphie, c'est formidable. C'est l'église de Thérèse de Lisieux, c'est l'église du docteur de l'église, Thérèse de l'enfance, de la toute petitesse. C'est l'église de Marthe. C'est l'église de la pauvreté absolue et d'état de ferveur maximum à l'intérieur de la pauvreté. Si on n'est pas dans un état de pauvreté, eh bien, la ferveur devient impossible. C'est la caractéristique de l'église d'aujourd'hui. C'est vrai. Une petite phrase de Marthe, là. Dans le corps mystique de l'église, ce sont les plus faibles de ses membres qui sont les plus nécessaires. Laissons encore la main divine creuser, appauvrir, tailler en secret dans le vif en vue des récoltes à venir. C'est l'état pauvreté est devenu un état nécessaire. l'état de pauvreté intérieure. La retraite que nous allons faire, donc, elle va nous permettre, je l'espère, on va demander à l'Esprit Saint très très fort, on va demander à Marie, on va prier les uns pour les autres, c'est sûr. On va demander qu'on puisse découvrir à l'intérieur de cette pauvreté qui est la nôtre les surabondances de Dieu. Parce que le bon Dieu ne se servira pas de nous à cause de nos richesses, à cause de nos qualités, à cause de nos grâces. Le bon Dieu, dans l'Église des derniers temps, n'utilisera en nous que nos pauvretés. C'est une exigence. C'est une exigence du combat eschatologique final. Et vous le savez, vous me verrez souvent parler du combat eschatologique final. Pourquoi ? Parce que le Saint-Père a considéré et a déclaré que nous rentrions dans le combat eschatologique final. Il a déclaré la guerre à cette culture de mort à Denver. Il a eu des paroles décisives, mais il en a eu presque tous les 3 ans, et pratiquement, il a signifié que l'Église rentrait dans le combat eschatologique, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse. On rentre dans le combat eschatologique. Remarquez bien qu'on le savait. Mais dans le combat eschatologique final, ce qui caractérise le combat eschatologique final, il suffit de regarder, sans regarder trop, de faire de théologie ou je sais pas quoi. Moi, je vais vous dire, j'ai une chose plus simple à faire. Je regarde Marthe Robin. Parce que c'est un petit peu ça que je voulais faire passer aujourd'hui. Ce soir, pour commencer, que nous regardions Marthe Robin. Marthe était un petit ruisseau extraordinaire, torrentiel, qui a fait capoter le monde entier. L'humanité a été retournée. À elle toute seule, un bras de levier formidable. Et une porte a été ouverte, et il y a quelque chose de fou qui a commencé avec Marthe. Et Marthe, vous voyez, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant toute sa vie ? Eh ben, elle a vécu dans un état de pauvreté, je dirais pas maximum, juste la tête qui vit, le reste du corps est mort, sauf pour la souffrance. C'est fou, quoi. Se nourrit que de l'Eucharistie, la nourriture la plus pauvre qui soit. Jésus pour dans un état de pauvreté absolue. Et à partir de là, eh ben, elle a relevé et elle donne un petit peu comme une icône de ce que l'Église doit vivre. En effet, vous le savez, ce que disait Marthe à propos de l'Église, elle est prophète, écoutons-la. Elle disait ceci, l'Église, ben, c'est tout simplement, c'est Jésus. C'est ce que disait Jeanne d'Arc. Pourquoi veux-tu faire une différence entre l'Église et Jésus ? Entre Jésus et l'Église, il n'y a aucune différence entre Jésus et l'Église, l'Église et Jésus. Et effectivement, Jésus a connu, pendant les 36 ans de sa vie terrestre, il a connu, vous le savez, toutes les étapes de sa vie terrestre. Et il a été persécuté enfant, il s'est nourri des psaumes et des saintes écritures et des traditions des pères. Il a eu son âge adulte dans sa bar mitzvah à 12 ans. Il est resté caché, il a travaillé toute sa vie jusqu'à l'âge de 30. Ensuite, il a été missionnaire. Et ensuite, alors, l'Église a connu toutes ces étapes. L'Église a connu toutes ces étapes. Elle a été persécutée pendant les 2 premiers siècles et demi. Et puis, ensuite, elle a connu l'âge des pères. Et puis, elle a eu sa maturité vers le bas Moyen Âge, avant Charlemagne, et puis après, eh ben, elle a travaillé tranquillement, elle a fait sa civilisation, elle a imprégné la culture des valeurs, je veux dire, de la présence du Christ, c'est sûr, le rayonnement sacramentel du Seigneur, les saints, les pèlerins, la pauvreté acceptée, c'était beau, vous savez, ça a été beau. Et c'était pas du tout dans la paix absolue, le démon était là. Et puis, l'Église a connu sa période apostolique, vous savez qu'elle a été missionnaire, 19e siècle. Et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus est juste au milieu, si je puis dire, de cette période missionnaire. Et Marthe disait, ben voilà, l'Église rentre dans la dernière semaine. Nous rentrons dans la dernière semaine de l'Église. Le pape aussi le dit, n'est-ce pas? Nous rentrons dans la dernière semaine de l'Église. Bon, ben voilà, c'est très très bien. Or, qu'est-ce qui se passe? Or, c'est quand même dans la dernière semaine. Jésus, pendant par exemple sa période apostolique, il a fait des choses formidables. Il a ressuscité Lazare, il a guéri des centaines de milliers de malades. Il a tout de même, il s'est fait reconnaître comme le Messie par tout Israël. Ça a été fou, quoi, la vie de Jésus, c'était formidable. Il marchait sur les eaux, il a révélé à tous ceux qui voulaient bien l'entendre qui était le Père et qui était le Fils et qui était l'unité, qui était l'Esprit Saint. Et tout de même, il a donné aussi, je sais pas, c'était fou. Mais ce n'était rien, ça, à côté de ce qu'il a donné dans la dernière semaine. Dans la dernière semaine, il a donné sa vie par miséricorde pour le peuple de Dieu. Et à sa mort, il est rentré, à l'heure de sa mort, il a donné sa grâce à ceux qui n'étaient pas de son peuple, c'est-à-dire nous. Il a fallu attendre ce qui se passe après sa mort pour qu'il fasse l'œuvre principale, ou même unique œuvre pour laquelle il était venu. Tout ce qu'il avait fait avant a été compté pour rien à ses yeux. Et aux yeux de l'Église. C'est seulement après sa mort, dans les 36 heures qui ont séparé sa mort et sa résurrection, que tout s'est fait. Il a fallu qu'il rentre dans un état de pauvreté, je m'excuse du mot, de pauvreté substantielle. Ça c'est joli ça, mais ça, c'est pas pour en jeter plein la vue, hein. Non, c'est parce que c'est vrai. Il rentre dans un état de pauvreté substantielle. Il était mort. Alors, étant mort, il s'est passé quelque chose de formidable. Il s'est passé quelque chose de complètement étonnant. Il s'est passé ceci, il s'est passé que cette pauvreté a été source de la gloire, de toute la gloire de Dieu à travers son corps. Jusque-là, il n'avait pas glorifié Dieu. Il a fallu qu'il attende. C'est très important ça, de se rappeler de ça, parce que on n'incite pas assez. Saint Augustin est très net là-dessus. Et pas seulement Saint Augustin, vous comprenez, mais Saint Augustin c'est le premier, là, c'est bon ça. Mais c'est tous les sacrements, toute la grâce surnaturelle, toute l'adoption que Dieu fait des pécheurs que nous sommes pour nous transformer en unique fils de Dieu. Tout ça, ça s'est fait après la mort de Jésus. Un coup de lance. Et Saint Jean dit, il est sorti de l'eau, il est sorti du sang, il est sorti l'Esprit Saint. Jésus ne nous intéresse que à cause de ça. Et le Père ne veut qu'on s'approche de Jésus que là. Fais-toi capacité, je deviendrai ton. Tous les sacrements, vous voyez par exemple quand on communie à l'Eucharistie, vous touchez, nous touchons quoi? Nous touchons qui? Nous touchons la blessure du cœur de Jésus après sa mort. C'est là que jaillissent tous les sacrements, dans tous les temps, dans tous les lieux. Que jaillissent les fécondités infinies et suprêmes de l'amour du Christ qui nous envahit, qui nous prend, qui nous étreint, qui nous saisit. C'est là que jaillit cette espèce d'attraction irrésistible du Père vis-à-vis de ce qu'il y a de plus lamentable en nous. C'est là que jaillit, les capacités de transformation de tout notre univers. Parce que l'Esprit Saint, est donné aux pécheurs par la foi, l'espérance et la charité, et il ne sera livré à la transformation qui lui est propre en tant que créateur qu'à travers les pécheurs, s'ils vivent dans le cœur sacré de Jésus, dans la blessure du cœur. Et j'aimerais beaucoup, personnellement, que, à l'occasion de cette retraite, ça devienne extrêmement clair pour nous que nous sommes coincés. On n'a pas d'autre voie. Il faut qu'on fonce dans cette direction, n'est-ce pas? Il faut qu'on rentre dans le cœur de Jésus mort sur la croix. L'Église doit passer par cette étape-là. Le corps mystique de l'Église doit passer par cette étape-là. Vous voyez, l'icône de Marthe, c'est ça. L'Église, le Christ est vivant, c'est la tête, et le corps est mort. Et c'est à partir de ce corps que tout le sang de Jésus vivifie tout l'univers dans le tombeau de sa chambre, dans le sépulcre. C'est les 36 heures, ces 36 heures qui se passent entre la mort et la résurrection, c'est l'heure de l'Église d'aujourd'hui. Et donc, il y a une modalité. Il y a une manière de vivre de l'adoration vis-à-vis de Dieu, de vivre de l'union à Dieu, de vivre des sacrements, de vivre de la foi, de vivre de l'espérance, de vivre de l'amour fraternel qui est très très particulier. C'est toujours la même foi, c'est toujours la même espérance, c'est toujours la même charité, mais elle rentre dans un contexte totalement différent. C'est le conditionnement qui change. Mais c'est ça qu'il faut comprendre dans notre méditation. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va nous permettre de rentrer dans ce grand élan dans lequel Jésus nous a choisis pour ça. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup de hein, que l'artichaut, hein, il en sort. On va mettre le cœur à nu, vous comprenez? Alors toutes les feuilles, elles tombent. Ouais, alors il y en a plein. Moi j'aime bien, quand vous mangez des artichauts, vous pensez à ça. Ça c'est l'Église d'aujourd'hui. Tout fout le camp. Et puis alors après, il y a des poils, vous savez, c'est pas bon ça. Alors ça arrache sur les poils, il ne reste plus que le cœur. Ouais. Vous mettez de l'huile et du vinaigre. Ah oui. Et l'Église d'aujourd'hui, c'est une Église des tout petits, dépouillés, reste plus rien, même plus les poils, rien, pas de vêtements. Il n'y a plus rien que cette pauvreté absolue. Et il faut l'aimer, vous comprenez? Jésus a aimé. Il n'est venu que pour ça. Et donc il faut découvrir en nous nos pauvretés. De fait, puisque c'est dans nos pauvretés de fait que peut jaillir l'espérance. Si nous n'acceptons pas nos pauvretés de fait, nous ne pouvons pas rentrer dans l'espérance. C'est impossible. Donc la première chose, c'est de découvrir que nous ne pouvons plus nous appuyer sur nous. Qu'on ne peut s'appuyer que sur la grâce. Que sur la vie surnaturelle. Que sur la vie divine. Que nous ne pouvons plus rien faire et que cependant nous devons, d'une manière très active et très féconde, laisser Dieu opérer. De manière que nous soyons entièrement livrés à Dieu. Et que c'est lui qui agisse. Mais si nous n'avons pas découvert notre pauvreté la plus absolue, on ne peut pas faire cet acte d'espérance. Et donc, c'est ce que nous allons regarder. Nous allons regarder quelque chose de très extraordinaire, de comprendre qu'on rentre dans un temps de l'Église, nous sommes choisis, si je puis dire, nous sommes choisis par Dieu. C'est une chance dingue. Moi, je trouve ça génial. Moi, c'est juste ça, complètement fou, quoi. Qu'on soit choisi par le bon Dieu, si vous voulez, pour rentrer dans l'Église au moment où l'Église rentre dans son heure. Jésus, bon, d'ailleurs il le disait, hein. Je respecterai pas toujours les horaires. Il le disait Jésus, mais enfin jusque ça, quand resterai-je avec vous, enfin, qu'est-ce qui me tarde, etc. Oui, parce qu'il a 36 ans, lui, il était impatient qu'il y ait qu'il y ait ce don de l'Esprit Saint, qu'il y ait ce don du sang à travers son corps mort. Et une impatience terrible, une impatience folle, complètement. Et c'est l'impatience de l'Église. Voilà 2000 ans que l'Église attend son heure. Et cette heure, eh ben, elle est pour nous. C'est notre heure. C'est nous qui allons avoir cette chance, cette grâce extraordinaire, vraiment extraordinaire, que Dieu puisse être enfin présent de manière féconde, rayonnante et incarnée dans le monde entier, à travers l'Église, à travers nous. Ah oui, alors c'est dans cette spiritualité de la toute petitesse, petitesse, féconde à l'infini, qui relève l'humanité tout entière, toute une jeunesse perdue, toute une création abîmée, etc. C'est ça la grâce de l'Église d'aujourd'hui. Et donc, quelque part, nous allons rentrer, nous allons essayer de comprendre ça. Alors, comment est-ce que nous allons faire, toujours, ce que je vais vous proposer, vous recadrez à moi maintenant de passer à des choses matérielles. C'était l'annonce, pour ceux qui ne savaient pas, donc nous allons parler de l'espérance. Bon, mais de l'espérance de l'Église du sixième sceau de l'Apocalypse, de la sixième trompette de l'Apocalypse, de la sixième coupe de l'Apocalypse, de la sixième église de l'Apocalypse, du sixième signe de l'Apocalypse, de la sixième destruction de la Babylone du mal de l'Apocalypse. Il faut qu'on comprenne l'Église d'aujourd'hui. On ne doit pas vivre dans l'Église de je ne sais pas quoi, quoi. On n'a pas le droit, hein. On a un devoir de réalisme. Quand on est pauvre, un pauvre, il a intérêt à avoir les pieds sur terre. On a un devoir de réalisme, on ne doit surtout pas vivre de l'Église de New Age, par exemple, Nouvel Âge. Vous voyez, l'Église, je sais pas quoi, du Christ cosmique, ou l'Église de c'est purement imaginaire, ça. On est dans l'Église du XXe siècle, une Église qui doit donner l'Esprit Saint au monde entier et à grâce qui doit se donner entièrement à Dieu pour que Dieu puisse tout reprendre et tout recréer et que le Christ puisse revenir, que l'Esprit Saint puisse venir, que le règne du Christ puisse s'établir, que la destruction du mal soit définitive. Alors, j'ai imaginé plein de trucs. J'ai imaginé premièrement que la règle que Jésus a imposée à Marthe pour les retraites en foyer de charité soit intégralement respectée. Le silence doit être total. Je dis bien, total. Si vous avez un mot à vous dire, vous prenez un papier et vous vous écrivez quelque chose. Est-ce que tu peux me passer le dentifrice? Vous ne faites pas autrement. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez un mot pendant cette retraite, je vous préviens, parce qu'on est solidaires, vous comprenez? C'est pas moi qui veux, vous comprenez que c'est pas moi, c'est vous. Nous faisons la retraite. C'est l'Esprit Saint qui se sert d'un corps mystique qui est le nôtre. Et si jamais il y a deux ou trois passoires dans le corps mystique, vous voyez la baudru, il n'y aura plus de pression. À chaque fois que vous dites un mot, c'est un mot divin en moins qui sortira ici. Donc vous multipliez par 40. C'est dramatique. Un petit trou d'épingle. Il faut respecter le silence. Je crois que c'est très 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 important. C'est très très important. C'est uniquement pour une seule chose. C'est parce que, vous savez, les retraites en foyer de charité, on en fait une part dans sa vie. On en fait peut-être deux. Alors, et c'est par politesse vis-à-vis de Dieu. Dieu a donné la grâce suprême qu'il veut donner à l'Église depuis 2000 ans. On est là, et pour un petit caprice, parce que notre langue nous chatouille, on va tout foutre en l'air. Ah non, ça non. Donc le silence absolu. Si vous estimez qu'il vous est trop difficile de le faire, alors à ce moment-là, ben écoutez, on peut venez me voir, par exemple vous êtes dans une chambre, vous êtes deux. Ben venez me voir, on s'arrangera, on retrouvera une chambre. On vous séparera. C'est vrai? Même dans les chambres, hein, surtout pas dans les chambres. Hein. Vous comprenez bien que si on parle. Si on ne rentre pas dans cet immense silence, c'est-à-dire cet immense silence du tombeau, cet immense silence du corps de Jésus qui est mort, on ne recevra pas ce que Dieu veut nous donner. Donc c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est que nous allons vivre cela avec une confiance totale en Marie. Une confiance totale à Marie, à la Vierge, parce que Marie a vécu de ce moment-là dans une très, 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 très grande unité. Elle était debout. Pourquoi? Parce que l'espérance, ça se dit « elpis » en grec chez saint Paul, et saint Jean lui dit « constance ». Espérance, saint Paul. Et quand c'est saint Jean, lui dit, c'est Jean-Paul II, donc il faut bien dire Jean et Paul. Donc saint Jean lui dit, constance. Marie était debout avec Dieu. Ce qui la faisait tenir debout, c'est qu'elle était unie à Dieu seul. Elle a accepté de se détacher complètement. Elle ne regardait plus Jésus. D'ailleurs, Isaïe le disait, il n'avait même plus visage humain. On se demandait même si c'était un homme tellement il était défiguré. Elle était détachée de Jésus, complètement. De la sainteté de Jésus, du visage, pourtant Dieu sait que c'est un amour quasi infini, que ça a dû être une pauvreté dans laquelle elle était. Elle était debout. Pourquoi ? Parce qu'elle a été unie. Elle a été unie à ce don tonitruant du Verbe de Dieu à travers le corps mort du Christ, de Dieu le Fils, de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui faisait vivre le corps mort du Christ. Et elle était unie, constarée. On dit ça en latin, stabat mater. La mère était debout. Elle était comme sa constance. La constance, c'est l'espérance. L'espérance, c'est que dans l'état de pauvreté suprême, on ne vit que de la joie infinie de Dieu. Elle n'est attentive qu'à cette joie infinie de Dieu, à travers le cœur de Jésus ouvert par la lance. Alors là, ça c'est fort, hein. Et donc, c'est pour ça que le mystère, quand on dit le mystère du rosaire, du coup de lance, eh bien, on dit, fruit du mystère, la confiance en Marie dans les temps difficiles. Oui. On a une confiance pendant cette retraite, une confiance pendant... On va faire une confiance comme Marie, tous, comme le Saint-Père, tous, une confiance totale à Marie. On va se consacrer à elle toute cette semaine, une semaine de consécration à l'espérance immaculée de Marie. Il faut que ce ne soit plus notre espérance, il faut que ce soit l'espérance infaillible, immaculée et totale, plénière, irrésistible de Marie. Et donc, on va se consacrer à elle. On va se consacrer à elle, et c'est pour ça que j'aurais voulu rythmer l'ensemble de notre retraite par un rosaire à 30 mystères. Donc, nous avons dit les 5 premiers mystères. Et puis, à partir de demain, on dira les mystères douloureux. Et avant chaque petite communication, on dira une dizaine. Comme ça, dans le total, nous aurons dit 30 mystères. Nous dirons les mystères douloureux demain, puis les mystères glorieux. On essaiera de les dire en les méditant un petit peu, en fonction de l'espérance. Puis, nous dirons ensemble, comme ça, au compte-gouttes, ce sera une espèce d'immense rosaire de la vie cachée de Jésus. On dira les mystères, le quatrième chapelet, ce sera les mystères de joyeux, de la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Vous savez que ce qui a été annoncé par la première encyclique du pape, quand il a été pape, la première encyclique qu'il a fait, c'est Redemptor Hominis, il a dit, je suis là pour préparer le nouvel avant de l'an 2000, qui est une expression théologique très nette, qui veut dire, nous sommes là pour nous préparer à la venue du Christ. Et donc, à ce passage de la cinquième à la sixième et à la septième église de l'Apocalypse, donc nous méditerons le chapelet joyeux de la parousie. Ce sera le quatrième chapelet. Le cinquième chapelet, c'est qu'une fois que le Christ aura installé, inauguré ce règne, de la Pentecôte d'amour, que l'Église sera tout à fait elle-même, que le Christ sera tout à fait substantiellement uni à tous ses membres, à ce moment-là, il régnera, le fameux règne du Sacré-Cœur. Nous dirons le mystère, cinquième mystère, sur les règnes, le règne du Sacré-Cœur. Comment le Christ veut régner en nous. Et puis, nous dirons ensuite le dernier chapelet, qui sera la manière dont Dieu veut, jusqu'où il veut nous amener, comment l'Église au ciel vivra dans la très sainte Trinité éternellement, entièrement glorifiée, les 5 mystères glorieux de la Jérusalem céleste. Pourquoi faire cela? Parce que c'est important dans l'espérance de comprendre que notre espérance désormais n'est plus une espérance individuelle, c'est une espérance du corps mystique totale de l'Église. Et donc il faut que l'espérance nous permette de vivre dès maintenant de la plénitude qui nous est proposée à la fin. Et donc il faut qu'on monte de cette manière-là. C'est la deuxième chose, la troisième chose, pardon. Ce sera en nous dirant un chapelet. Ensuite, je voulais vous dire aussi que nous sommes accueillis donc par une communauté. La communauté, elle va nous accueillir demain par la messe. Donc c'est le père du foyer de charité qui célébrera la messe demain. Et c'est lui qui la clôturera. Donc demain, c'est moi-même qui nous concélébrerons à chaque fois. C'est la communauté qui anime les chants. Le foyer de charité qui le fait, et ce qui est très bien. Nous allons nous donc communier à cette manière très simple, très, très enfantine, très pauvre aussi, très dépouillée, mais très sympathique et très limpide de célébrer la liturgie. Donc simplement, je crois que c'est très bien. Vous savez qu'ils sont là pour prier pour nous. Ils prient tous les jours, tous les soirs, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour chacun d'entre nous. Voilà, donc c'est bien, on est quand même porté par un petit Carmel, quoi, qui est ici. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que nous aurons ensemble, 19 reprises, une explication doctrinale, spirituelle, biblique, théologique et mystique sur l'espérance, parce qu'il faut quand même qu'on soit baraqué, quoi. En sortant d'ici, si on ne sait pas faire un acte d'espérance, à ce moment-là, c'est que ce serait vraiment nul. Vous avez plus. Non, alors donc, ça fera 19 fois. Pourquoi? Parce que j'aimerais beaucoup que nous vivions donc cette semaine aussi à l'ombre de Saint Joseph, à l'ombre de Joseph, à l'ombre de l'époux de l'Immaculée Conception. Et nous allons comprendre progressivement pourquoi c'est si important. C'est si important de découvrir le mystère de celui qui a intégralement épousé tout le mystère de Jésus et de Marie. Le rôle qu'il a joué, par exemple, au moment où Jésus meurt sur la croix. Quel rôle Joseph a-t-il joué lorsque Jésus mourait sur la croix? Il était déjà mort, Joseph. Quel rôle Joseph a joué, le père, le papa de Jésus, notre papa, nous aussi. Quel rôle Saint Joseph a-t-il joué à la résurrection? Ah, quel rôle Saint Joseph a-t-il joué tout le temps, quoi. Il faut absolument qu'on comprenne ça. C'est quelque chose de très, très, très important. De manière que la Sainte Famille, voyez, c'est ça le quatrième mystère joyeux. Le quatrième mystère joyeux, c'est qu'on va vivre de la Sainte Famille glorieuse. Jésus, Marie, Joseph. Il va falloir absolument qu'on rentre là-dedans. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai choisi de faire 19 conférences. Vous savez que 19, c'est le chiffre de Saint Joseph. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ben, je la reprends. Pour que vous puissiez quand même tenir le coup. Parce que quand même, mon Dieu est miséricordieux. Alors, vous savez, les Xavier, Mireille, tout ça, ils viennent de déménager. Donc ils viennent de l'Aude et ils n'ont toujours pas ouvert leur carton de bibliothèque de livres. Donc vous n'aurez rien sur la dent à vous mettre pour comme livre. C'est terrible, hein? Alors, bon... je me suis dit, bon, moi, je vais amener des trucs. Alors, je vous ai mis là-bas au fond, vous voyez, je vous ai mis là-bas au fond des petits livres blancs. Oh, comme ils sont beaux. Ils sont beaux comme tout. Vous verrez, j'en ai amené un pour chacun. Prenez en priorité la pile du centre. C'est sur Saint-Joseph. Je veux dire, par là, et il faut, quand on fait une retraite ici, il y a les petites méditations, mais vous avez votre Bible, bien sûr, mais vous n'allez pas pouvoir lire votre Bible tout le temps, ou tant que vous prenez. Il faut que vous ayez quelque chose sous la dent. Dès que votre langue vous démange, vite le livre, ou la Bible. Dès que votre langue vous démange, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est de la petite pastille. La sucette, vous voyez ? C'est le coup mortel sur la langue, c'est le petit livre blanc. Et Joseph, très silencieux. Alors, comme je voudrais que ce soit sous l'ombre de Saint-Joseph, eh bien, je vous propose de prendre ce livre. Il est pour vous, c'est mon cadeau. Ouais, cadeau d'entrée, c'est sympa. Car c'est moi qui écris là-dedans, hein. C'est moi l'auteur. Donc, vous ne serez pas déphasé. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de contradiction, n'est-ce pas, entre ce que vous entendez et ce que vous lirez. Voilà. Mais vous pouvez piocher aussi les autres, si vous préférez. Celui qui est à gauche, c'est sur le règne du Sacré-Cœur. C'est de très beaux textes sur les anges, sur la manière de vivre avec le monde angélique, sur la manière de vivre l'adoration, de vivre dans son corps, de vivre de la foi, de l'espérance, de la charité dans l'âme. Des très très beaux textes, il y a des très belles perles là-dedans. C'est une session qu'on avait fait à Lourdes en 1994. Quelqu'un a eu la bonté de le taper. C'est des notes d'un retraitant d'une retraite que nous avions vécue à Lourdes. Reine du Sacré-Cœur, mise en place du monde nouveau, institution du corps spirituel, mise en place du corps spirituel. Voilà. Bon, vous pouvez donc prendre. La pile de droite, c'est plutôt pour ceux qui s'intéressent au mariage. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sacrement de mariage? Comment on fait? C'est réservé à ceux qui veulent s'intéresser à cette question. Ceux qui sont célibataires, c'est pas pour eux. C'est ce que le Saint-Père explique sur le sacrement de mariage. Alors, si vous voulez un truc, ces livres-là ne se lisent pas en commençant par le début. Il faut toujours piocher, au milieu ou à la fin. En théologie, il faut toujours commencer par le dernier chapitre, hein, et puis descendre comme ça. C'est un principe très important, sinon on s'assèche, hein. Il n'y a pas d'ordre génétique en théologie. L'ordre en théologie, en mystique, c'est la cause finale. Alors on descend et puis on creuse après. C'est génial, alors, du coup, on veut saisir les racines. Parce que si tu prends les racines, ben, tu déracines là. Si tu veux déraciner, autant prendre la tronçonneuse. N'est-ce pas? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, ne venez pas hurler en disant, voilà, j'ai rien compris à ce que vous avez dit, je voudrais que vous précisiez tel ou tel truc. J'aimerais beaucoup que... Alors, vous mettez votre petite... vous inquiétez pas, vous mettez votre... vous écrivez, vous avez commencé à être... hein, c'est le stylo qui va vous faire des muscles, c'est plus... les langues, c'est plus les muscles de la langue. Là, ça va être merveilleux. Là, ici, d'un petit panier, les petites questions. Quand vous voulez poser des questions, vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions. Voilà, vous pouvez vous confesser, bien sûr, aux deux pères qui sont là, trois même, moi aussi, quand je serai libre, donc vous le savez, quand vous sortez de cette porte-là, vous rentrez tout de suite dans un vestibule, et ce vestibule donne ou bien chez moi, ou bien la porte après, en profondeur, chez le père Ricard, qui est le fondateur du foyer de Saint-Denis, qui est ici, 88 ans, un vrai saint. Et le père Dominique, que vous avez vu, plus jeune, enfin il a mon âge, et qui est habillé en blanc, qui est le nouveau père du foyer de charité depuis 2 ans, je crois. Voilà, il est aussi dans cette direction. Là, vous pouvez, bien sûr, dès qu'il y a des moments de libre, vous pouvez rencontrer ses pères, notamment pour la confession. Je crois que c'est bien de faire une bonne confession. Ah oui, pour une retraite, c'est bien, c'est une bonne confession. Ah ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que, si vous avez des intentions pour la messe, puisqu'on va célébrer le saint sacrifice de la messe, vous venez avec des tas de fardeaux, vous venez en disant, mais il faut absolument que je prie pour ma femme, pour qu'elle change de vie, pour mes amis, pour qu'ils suppriment le tas de trucs, pour mes enfants, pour telle personne, vous portez quelque chose, un accident de voiture, un enfant que un enfant que vous avez perdu, j'en sais rien. Voilà, vous mettez, à ce moment-là, vous, pareil, vous faites un petit bout de papier et vous mettez le prénom de la personne pour laquelle vous voulez que le que tout le monde prie ici ensemble, que le sacrifice de la messe puisse être intégré à la grâce que nous allons recevoir ici. Vous mettez le prénom, vous mettez l'âge de la personne pour laquelle vous voulez prier, parce qu'il faut vous en détacher. Il faut vous en détacher. Pas d'espérance si on ne se détache pas de ces trucs. On ne doit plus rien avoir à soi. Donc on se détache de ces problèmes, et notamment de ces personnes-là. Voilà, on met le prénom, on met son âge, et on dit si c'est par exemple un voisin, un ami, un ennemi, un bisaïeul. Hein? Voilà, vous le faites comme ça. Voilà. Et vous mettez également dans le panier qui est au pied du Saint-Père, là-bas avec le petit enfant, vous voyez. Voilà. Bon, je crois que, hein, pour les... Je m'excuse, c'est tout des petites choses très, très, très matérielles, mais enfin, une fois que c'est précisé, je crois que c'est bien. Hein. Nous allons maintenant... Je vais vous donner un petit papier. Je vous en donnerai en principe un par jour. Qu'est-ce qui peut le... Et ce petit papier, je vous le commande, c'est la prière que nous allons faire avant de nous endormir ce soir. Nous allons consacrer toute cette retraite, nous allons nous consacrer nous-mêmes, nous allons consacrer le monde entier à nous consacrer à cette grâce d'Immaculée Conception, à cette grâce de Marie, pour qu'elle devienne la nôtre. Ce texte, vous verrez, il est très beau, vous pouvez le garder, gardez-le sur vous. Et quand vous voulez reprier un petit peu, gardez-le sur vous. Quand vous avez envie de prier un peu, vous le méditez, vous le prenez. Il est très fort. C'est la consécration que de Saint Louis, pas de Saint Louis-Marie, évidemment fort, mais du Père Maximilien Marie Kolb à l'Immaculée Conception. Une très très belle consécration. Et elle est complétée par la formule de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans les trois dernières lignes, vous voyez, elle est très belle, et elle dit bien dans quelles conditions nous rentrons dans cette retraite. Qu'est-ce que le Père Kolb a fait en écrivant cette consécration? Il a formulé la spiritualité de Saint Joseph. À mon avis, c'est ça. Vous savez que le Père Kolb est rentré dans la vie éternelle avec dans un état de pauvreté incroyable à Auschwitz. Hein. Donc il a donné sa vie pour un père de famille. Pour un père de famille. Et il était amoureux de l'Immaculée Conception à un point qui n'est pas permis de dire. Et vous verrez, elle est très très forte. Et quand nous dirons cette prière, quand vous la redirez, quand vous la relirez, quand vous la réintégrerez, quand vous la réincarnerez, eh bien vous allez voir que c'est ce que faisait tout le temps, l'époux de l'Immaculée Conception, le papa de Jésus et notre papa. Il va falloir absolument que Joseph devienne notre papa à nous. C'est mon papa. Et comme il vient de papa, eh bien, il faut qu'on soit comme lui, et on va faire comme lui. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire dans cette... Vous voyez, je vous le lis, puis après nous le dirons ensemble, debout, et puis nous irons nous coucher pour pouvoir nous lever demain par la grâce de Dieu. Vous voyez, si j'ai trois commentaires à faire, et puis après nous le lirons ensemble, nous le proclamerons ensemble, nous le crierons intérieurement ensemble. C'est une consécration d'une virilité, d'une puissance. D'une force de déracinement et de destruction du mal. qui est formidable. Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en présence de toute la cour céleste, nous consacrons totalement à toi. Nous voudrions être possédés par toi. C'est très important, ça. Plutôt d'être possédé par le démon, autant être possédé par l'Immaculée Conception. C'est plus juteux, comme disait mon professeur d'histoire. Bon, d'histoire économique. Nous voudrions être possédés par toi, afin que toi-même vives en nous. Nous voudrions t'appartenir tellement qu'il ne reste rien en nous qui ne soit pas toi. Afin que nous soyons comme anéantis, effacés, disparus en toi. Changés en toi. Transsubstantiés en toi, comme l'Eucharistie. Le pain est changé dans le corps de Christ. Que qu'on puisse devenir mangeable. Parce qu'on est un peu imbuvable. Vous n'avez pas entendu parler, c'est pour ça taisez-vous. Et puis transsubstantiation à l'Immaculée Conception. Vous voyez, c'est la règle, transsubstantiée en Marie, transsubstantiée en elle. L'Eucharistie, c'est ça. Elle nous apprend que nous devons aller jusque-là. Sinon, nous serons jetés dehors de l'Église des derniers temps. Transsubstantiée en toi, qu'il ne reste plus que toi. Accepte notre être tout entier. Agis en nous, que ce soit plus nous qui agissions, agis en nous selon ta volonté, dans notre âme, dans notre corps, en lui, dans notre corps. Et je veux dire, dans l'intérieur de notre corps, que ce soit l'Immaculée Conception, qui soit agissante, actuelle, présente. Oui, ça c'est sûr. Oh, on reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. En notre vie et dans notre mort, en notre éternité, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors là, maintenant la petite Thérèse. Nous voulons à chaque battement de notre cœur nous renouveler, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois. Jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, nous puissions vous redire notre amour dans un face-à-face éternel. Très très belle, hein? Très très belle, hein? Très très belle consécration à Marie. Et chaque jour, je vous donnerai une prière qui va essayer de donner une incarnation, si vous voulez, par la prière, en le vivant du plus fort qu'on puisse faire, et individuellement et collectivement, pour rentrer dans l'expérience surnaturelle de l'espérance théologale, de l'Église, du sixième sceau de l'Apocalypse, et de la parousie du Seigneur. Je crois que c'est très important. Donc, si vous voulez bien, je vous remercie. Je vous dis déjà à l'avance. C'est encore une petite précaution oratoire, parce que je sais, bon, ceux qui me connaissent, ça va, mais ceux qui ne me connaissent pas, surtout ne soyez pas scandalisés. De temps en temps, je m'énerve un peu. Je fais pas des conférences recto tono, vous savez. Alors, je ne dis pas le truc, saint Thomas d'Aquin, etc. Oui, vous inquiétez pas, j'ai étudié saint Thomas d'Aquin sur l'espérance pendant 2 ans. Mais je ne vous lirai pas saint Thomas d'Aquin. Pas parce que saint Thomas d'Aquin n'est pas intéressant, saint Thomas d'Aquin est très intéressant. parce que c'est la doctrine de l'Église. Mais simplement parce que c'est, je voudrais que ce soit nous ensemble qui découvrions et fassions ensemble l'expérience, et puis surtout la découverte de l'expérience, de l'espérance théologale, de l'expérience surnaturelle. Saint Thomas nous aidera beaucoup, vous inquiétez pas. Mais je ne veux pas vous faire, vous comprenez, des cours. Ce que nous voulons, c'est rentrer de manière vivante en Dieu, par l'espérance. Et pour ça, donc, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir que vous supportiez le type qui crache dans le micro, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Vous comprenez, j'ai pas l'habitude je suis solitaire, vous comprenez? Donc moi, la vie communautaire, le truc bien policé, la déontologie, je suis pas doué. Donc vous me passerez sûrement, vous serez sûrement très très miséricordieux avec moi. Vous comprenez? Mais je vous affirme que je ferai de tout mon possible pour pas vous scandaliser. Je ferai tout ce que je peux. Ce sera pas facile pour moi. Mais soyez pas scandalisés, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui vous choque, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit bout de papier, tu vois. Mon père, non, là, franchement, là, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Alors je dis très bien, ça c'est bien. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, surtout, ne restez pas bloqué pour un détail. C'est vrai. Ne restez pas bloqué pour un détail. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas, ne restez pas bloqué. Si vous ne comprenez pas, c'est très important. Vous réalisez que vous ne comprenez pas ça, je ne comprends pas ça, je bute là-dessus. Alors vite, vous me le mettez. Il faut absolument que vous me le mettiez. Parce que si vous ne comprenez pas et que c'est évident pour vous, c'est qu'il y en a au moins 15 qui ne l'ont pas compris non plus, mais qui ne s'en sont pas rendus compte. Donc c'est comme ça qu'on va coopérer ensemble. Bon, s'il y a quelque chose qui... Vous voyez, donc non, ne soyez pas... Vous inquiétez pas. Donc, si je quelquefois je m'excite, etc., c'est pas du tout... Oui, parce que, par exemple, quelquefois, bon, ça me prend comme une envie, je sais pas, comme ça, de pousser un hurlement, ou... Vous comprenez? Je suis pas dans un Carmel, moi, toute ma vie. Ça fait des dizaines d'années que je suis dans la montagne. Quand j'ai envie de hurler, je hurle. Et quand j'ai envie d'imiter le pape, j'imite le pape. Quand j'ai envie d'imiter, je sais pas moi, n'importe qui. De temps en temps, j'ai des folies comme ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Le bon Dieu me pardonnera ça. Il me pardonnera. Mais c'est pas pour autant que ce que nous faisons n'est pas sérieux. C'est très sérieux. C'est très grand. C'est très fort. Okay. C'est très très fort. Je suis personnellement, vous savez, j'ai une petite, toute petite. Bon, je ne veux pas vous embêter là-dessus, mais j'ai une petite impression. C'est la première fois que je prêche une retraite dans un de foyers de charité. C'est la première fois de ma vie. Hein, je connais Marthe depuis presque 30 ans. Hein. Mais c'est la première fois. J'ai retraite dans ma montagne, mais sinon, pas tellement, hein, en Lozère, ça. Devant des mysticaux dingos, il y avait un groupe, de temps en temps, qui venait me voir. Alors, c'est une retraite. Mais c'est la première fois. Donc, vous voyez, je veux dire, j'ai pas une très grande habitude. C'est pas ça la question. Nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'on apprenne, c'est que je puisse, grâce à vous, que nous puissions ensemble être véritablement transformés par Dieu à l'occasion de cette retraite et qu'on soit à la disposition de l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint puisse se servir de nous. Et il se sert de nous parce qu'on est les plus pauvres de tous. Et pas pour une autre raison. Et ça, il va falloir qu'on rentre dans les voies, dans les secrets des saints, dans les secrets de l'Église des derniers temps, dans les secrets des derniers docteurs de l'Église, dans les secrets du Saint-Père, dans les secrets du Pape, et dans les secrets, au fond, de ce qui nous est réservé, les secrets de Marthe aussi. Je vous lis en terminant, avant la consécration, une phrase de Marthe, j'en dirai une fois de temps en temps. Avant de partir, vous prendrez chacun un petit papier comme ça, ici. C'est un petit message de Marthe pour toute votre... un petit message, chacun différent, hein. Ouais, c'est beau, hein. Chacun, vous prendrez un. Vous avez un petit message de Marthe pour vous. C'est des paroles de Marthe. Vous ne trouvez pas dans les bouquins, c'est inédit. Comme celui-ci, par exemple. Pour les petites âmes, les âmes vraiment pauvres, celles qui sont prédestinées à être les petites âmes, le Tabor se trouve sur le calvaire. C'est beau, ça. Pour ceux qui sont vraiment petits et vraiment pauvres, le Tabor, la lumière, se trouve sur le calvaire. Qu'un tel amour soit possible et qu'il reste inconnu, ignoré ou méprisé d'un si grand nombre, qu'un tel amour laisse indifférentes les multitudes, qu'une telle union à Dieu soit offerte à tous, qu'elle appelle tous et soit donnée à tous, et que si peu la recherche, que si peu la demande, quelle angoisse, quel terrible malheur, quelle singulière insensibilité. Ah, le grand malheur de notre temps, c'est la négligence, c'est l'erreur. Pourquoi ne pas donner tout son cœur, toute son âme à la pensée de Dieu? Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Pourquoi ne pas donner tout son cœur, toute son âme à être éperdument disparu dans la pensée de Dieu? C'est pour ça que nous sommes ici et c'est pour ça que nous allons nous consacrer maintenant.